Chirelle est en ligne avec nous à Tel Aviv. Bonsoir Chirelle.
Bonsoir, comment ça va?
Mais ça va super bien, j'allais dire, mais quel plaisir de vous recevoir.
C'est gentil. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, parce que tu es, comme je te dis, ma seule source d'information.
Ah bah alors, super, merci. Je vois que tu es abonné à WhatsApp.
Non mais c'est ma seule source depuis le 7 octobre, je ne veux que savoir par toi.
Ah bah écoute, super, j'ai annoncé une bonne nouvelle ce matin, on espère qu'il y aura un accord régional. Mais ce qui serait merveilleux, les artistes sont là pour propager la paix, évidemment.
Ouais.
Chirelle, tu es compositrice et auteur. Tu as sorti déjà 7 albums, joué dans de nombreuses comédies musicales, dont Notre-Dame de Paris, Les Enfants du Soleil, Avenue Q. J'ai sous les yeux, là. Il est tellement gros le fichier que je ne vais pas référencer tout ce que tu as fait. Le spectacle le plus remarqué dernièrement, c'était Yentel. Et vraiment, c'est sûr que tu étais la personne indiquée pour ça. Et là, tu reviens avec un très, très joli concept, qui est un concept de l'OSM, l'Organisation Sioniste Mondiale. Tu viens à Paris spécialement pour ça. Tu appelles ça le concert de poche. Alors, déjà rien que le titre, j'adore. C'est quoi le concert de poche?
Alors, en fait, je viens... Sous trois casquettes. Je viens pour raconter le plus grand amour de ma vie, c'est-à-dire Israël. Raconter comment j'ai fait mon alia avec l'OSM qui m'a contactée. Moi, j'ai toujours voulu travailler pour l'agence juive. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours dit un jour, mon rêve, c'est de travailler pour l'agence juive. Donc, ils m'ont contactée. Ouais, toujours.
Mettre les gens dans les avions, les Éthiopiens, les Russes. C'est ton rêve.
J'ai toujours voulu, en fait, parler de mon amour pour Israël de mille manières possibles. Et donc là, on m'a dit, est-ce que tu veux bien faire une conférence où tu raconterais ton alia et puis peut-être, par chance, peut-être tu inspirerais d'autres gens. J'ai dit, je ne sais pas si je peux inspirer, mais en tous les cas, je peux raconter mon histoire essayant d'être le plus authentique possible. C'est une histoire d'amour qui dure depuis 30 ans et chaque jour je me réveille et je suis encore plus amoureuse de mon pays. Quoi qu'il arrive sur la scène politique, quoi qu'il se passe, les hauts, les bas, les difficultés, les peurs, les angoisses et les grandes joies, tout ça, ça se mélange dans un grand amour que j'ai et que je veux partager. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont invitée à aller à Paris, à Marseille, à Lyon pour en parler.
Bah bien, je vais donner le planning tout de suite. Comme ça, ce serait une bonne chose. Alors, on te retrouve à Paris le 4 décembre. Donc, c'est cette semaine, en fait. Hein, c'est à l'Écuge.
Ouais.
Après, tu seras à Strasbourg le 6 décembre, Lyon le 7 et Marseille le 8. Chirelle, en fait, tu as sorti un très beau livre. En fait, c'est une catégorie, les beaux livres. On appelle ça catégorie beau livre. C'est un livre de 400 pages relié.
Moi aussi, j'ai appris ça, exact.
Hein, c'est vrai.
C'est catégorie beau livre.
Jews
donc espérons
music.
Qu'il est beau, mais je pense qu'il est beau. C'est un livre de 400 pages en lin, magnifique, avec des illustrations d'un monsieur de renommée, un Français qui s'appelle Marc-Antoine Coulon, excuse-moi, j'ai eu un oubli. Et Marc-Antoine, en fait, je l'ai contacté après le 7 octobre, il m'a dit « Moi, je ne suis pas juif, mais je suis avec vous, je veux donner ce que je peux donner au peuple juif. » Et j'ai dit « Écoute, est-ce que tu veux bien ?» illustrer des grands artistes juifs, compositeurs, chanteurs, etc. Il a dit « Je suis avec toi, demande-moi ce que tu veux ». Et c'est un shoot-off, un partenaire exceptionnel pour cette aventure qui est donc ce livre, catégorie beau livre, et qui raconte l'histoire du lien entre ces artistes juifs et leur judaïsme.
Leur musique ?
Leur musique et leur judaïsme. Et c'est et en fait tu as des découvertes exceptionnelles de gens qui savaient pas du tout qu'ils étaient juifs, des convertis, des gens qui se sentent pas juifs malgré qu'ils sont juifs, et des juifs, vraiment il y a autant de juifs que d'histoires, hein, comme d'habitude. Et aussi j'ai voulu mettre dans le livre j'ai interrogé des rabbanim, des raves avec lesquels j'étudie, pour savoir quel est le lien particulier du peuple juif avec la musique. Et il y en a un, enfin il y en a plein, mais c'est très intéressant. Il y a notamment la huitième note, tu sais, les Lévis, le mot Lévis, d'où vient le mot pont Lévis, lévitation, tout ça, c'est une huitième note. Tu as do, ré, mi, fa, sol, la, si, et après tu avais une huitième note qu'on a perdue, qu'on retrouvera au Beth Amikdash, si Dieu veut. Et cette huitième note, c'est celle qui faisait qu'on montait en lévitation, c'est-à-dire qu'on était presque en transe, si tu veux, en chantant cette huitième note. Et en étudiant avec le Rav Yoel Ben Arouche, que tu connais sûrement, il m'a expliqué que cette huitième note, ce que j'ai mis dans le livre, est la note du silence.
Oh.
Et c'est ce qui fait en fait que cette note, on peut avec cette note écouter toutes les autres et on y arrivera, j'espère, un jour, à un moment donné. voilà, c'est ce qu'on nous souhaite.
On a demandé à Leonard Cohen, on lui a dit, mais Alléluia, c'est universel. C'est pas un chant juif. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a différentes références, etc. Et Leonard Cohen a répondu, mais tout ce que je fais est juif.
Ouais, et ben c'est ce que c'est écrit dans le livre. Donc tu verras quand je vais te l'amener quand on va se voir à Paris. Et en fait j'ai aimé. Pourquoi j'ai fait ce livre? Parce que d'abord je pense qu'on a tous chacun à notre niveau, chacun avec notre nos cadeaux qu'on a reçus quand on est arrivé sur cette terre. On a tous eu besoin de faire quelque chose après le 7 octobre qui faisait qu'on avait l'impression d'être en action. Eh ben, ma petite action, ça a été de faire ce livre parce que j'avais besoin de healing, de guérir, en fait. Et la musique, ça guérit l'âme. C'est magique, en fait, la musique. Et le fait d'avoir fait le livre, de m'être concentrée sur la musique à partir du 7 octobre jusqu'à ce qu'il soit sorti, ça m'a vraiment aidée. Et je pense que si ça peut aider d'autres, ben, je serais très heureuse. Les couleurs sont très joyeuses, les histoires sont incroyables. Et voilà, ça transporte dans une joie qu'on a besoin, je pense.
Le mot qu'on utilise aujourd'hui, c'est résilience. Tout le monde dit résilience. Moi, je vais t'as dit guérir l'âme. Je ne sais pas si ce n'est pas plus parlant pour les gens au final. Mais avec ce livre, j'ai sous les yeux là, toutes les photos. On voit aussi l'influence universelle des Juifs.
Ah oui, incroyable. Bah, bien sûr, mais c'est ça qui fait qu'on est une grande nation. C'est qu'on arrive à puiser de... Voilà, j'étais à New York pour présenter le livre. On voit les Juifs new-yorkais complètement différents des Juifs français. Rien à voir dans la mentalité et tout. Mais bon, chacun a sa couleur. Chacun amène sa note, justement. Et à un moment donné, on arrivera à trouver cette huitième note qui rassemblera tout et qui fera que chaque couleur aura une résonance. Chaque note aura une résonance extraordinaire grâce à ce silence.
Mais tu sais pourquoi la Torah a été donnée sur le mont Sinaï? Je te dis quelque chose de très connu, hein. C'est pas de l'érudition.
Dis-moi.
Alors d'abord déjà parce que c'est la plus petite montagne qu'on ait trouvée, et donc c'est pas pour te montrer que c'est dans les cieux, c'est à côté de toi la Torah, elle est à ton niveau. Elle est à ta portée, parce qu'elle est pas à ton niveau, elle est à ta portée. Mais parce que dans le désert c'est le silence.
Ah, la Rhône, pourquoi ça a été dans le désert?
Tu vois, la création, c'est tout ce que tu es en train de raconter.
Ben voilà, en fait, il explique, le Rav Pinto, qui ouvre le livre, qu'en fait, Dieu crée chaque jour la création, encore une fois, comme une symphonie. C'est une symphonie inachevée qui se recrée chaque jour, et que chaque chose que tu vois, comme on sait que les molécules, elles bougent, en fait, et ben ce mouvement, c'est ça les notes, en fait. Et on sait que le battement d'aile d'un papillon, ça change l'atmosphère. Alors imagine une note, imagine une chanson, et imagine tout ce que ce peuple a créé en musique. Ça a changé le monde, ça a formé le monde.
Radio Shalom est juste à côté d'une grande synagogue de Paris, je ne vais pas donner le nom en ce moment, tu vois, par les temps qui courent, on en est arrivé là.
Tu ne peux même pas faire ça.
On en est arrivé là. Donc on n'est pas loin. Un jour je visite cette synagogue avec un invité, je lui dis, tu vois, membre du conseil d'administration parmi les tout premiers, il y avait le grand-père de Proust, monsieur Veil. Ah, c'est intéressant, je ne savais pas. Et tu vois l'orgue qui est là-haut, il y a Offenbach qui a joué dessus. Je me dis, mais Offenbach était juif. Je lui dis, bah oui, bah, il faut appeler Chirel, tu verras l'influence, l'influence des juifs dans la musique. Oui, Proust et Offenbach dans la synagogue. Bah oui, j'ai plus rien. Mais pourquoi par contre il y a Bob Marley dans ta liste?
Bah parce que Bob Marley, en fait, il y a deux choses, il y a deux sources. Il y a une rumeur, tu sais, que son père était juif, mais elle n'est pas complètement déclarée. Mais quand même, il y a des historiens qui optent pour cette option. Et puis après, les Rafastariens, tu sais, c'est les... Donc, ils sont Rastafari. Rasta, ça vient de
Rastafari. Tu parles d'un ancien fan, là. On ne dira pas quoi c'était.
Alors, eux, en fait, ils se considèrent comme une tribu perdue. Et ils considèrent que les Juifs, Exodus, Zion, tout ça, et le fait qu'ils portaient une grande magen David, c'est très très proche des Juifs, ils se considèrent comme une tribu perdue. Et comme, voilà, ils ont un lien très important. Et d'ailleurs, le fils de Bob Marley s'est marié avec une Israélienne. Son petit-fils vient de faire sa bar mitzvah. Oui, bien sûr.
Le fils de Bob Marley est né avec une Israélienne.
Ouais, il est marié avec une Israélienne. Son petit-fils a fait sa bar mitzvah l'année dernière.
Wow.
Et non, ils avaient un lien très particulier avec les Juifs. Alors, si tu as cité Bob Marley pour dire que c'était un petit peu,
étonnant.
On va dire... Étonnant. Et tu as aussi Louis Armstrong qui est dans Live, qui n'est pas juif, mais qui lui a porté une magen David toute sa vie, qui a été donc adopté par une famille juive. C'est eux qui lui ont offert son premier instrument de musique. Il parlait le yiddish. Tu as Sammy Davis Jr. qui lui s'est converti à part entière après sa voix, après avoir eu un accident de voiture très grave où il a perdu son œil. Et c'est quand il a tout perdu, tu sais, quand tu écoutes un peu ce qu'il dit, ça rappelle un petit peu. Malheureusement, les otages, c'est dans, en fait, dans le noir et dans le fait d'avoir plus rien qu'il a trouvé Hachem, qu'il a trouvé Dieu et qu'il a voulu se convertir. Et il s'est converti à part entière. Il se sentait juif complètement. Et il s'est converti de manière normale, quoi.
Chirel,
oui.
On a oublié qu'il y a Elvis Presley hein, dans le parmi.
Alors Elvis Presley, elle est drôle cette histoire.
Ah ouais.
En deux secondes, hein. Ah ouais. Sa grand-mère maternelle et son arrière-grand-mère étaient venus des pays de l'Est et eux, ils étaient juifs et d'ailleurs.
Mais il est juif alors. Sa grand-mère maternelle.
Oui, sa maternelle. Alors dans le livre, j'ai fait aussi paternelle. Hein. J'ai pas été très très orthodoxe, mais j'ai dit qu'il y avait une flamme juive en eux. Mais là, c'est du côté maternel. Et en fait, sa grand-mère maternelle, sa mère, quand elle est décédée. Elle a été enterrée normalement chez les chrétiens, puisqu'il se sentait chrétien. Et puis, quelques années après sa mort, il a refait son... Comment ça s'appelle, une matseva? Tu sais, la pierre tombale.
La stèle.
La stèle. Et il a refait avec une magen David et une croix pour justement expliquer que, voilà, elle venait,
deux
sa
influences
source était juive.
Et deux origines.
Exactement. Et lui portait aussi d'ailleurs un chai et une magen David aussi, en plus. Et il étudiait, on sait qu'il étudiait énormément de livres de Torah. Il a été un donateur jusqu'à la fin de sa vie dans des synagogues à côté de là où il habitait.
Allez, on n'a pas évoqué Bob Dylan, on n'a pas évoqué Amy Winehouse, il y en a vraiment de toutes les couleurs.
Non, moi j'en ai un qui m'a fait le plus plaisir, je peux te dire lequel, parce que là tu vois, je suis dans la chambre de ma fille qui est recouverte de posters. Voilà, tu vois pas, mais en tout cas, je suis recouverte de posters derrière moi, ma fille qui a 16 ans. Et moi, les miens de posters, c'était George Michael. C'était mon époque. Et figure-toi que George Michael, sa grand-mère maternelle, donc sa mère, était juive. Mais ils avaient eu le trauma de la guerre. Et donc, ils n'ont jamais révélé. Très tard, ils ont révélé qu'il est juif. Alors, on sait que celui, tu sais, avec qui il était dans Wham! Son
ouais,
partenaire
ouais.
Avec qui il a fait tous les tubes. Lui, il était juif, perse. Et Wake Me Up. Et George Michael aussi. Et ça, je crois que entre George Michael et Olivia Newton-John, c'est ceux qui m'ont fait le plus sourire.
Olivia Newton-John.
Ah ouais.
Wow. Allez.
Son grand-père, il a même eu un prix Nobel de la paix, était très très ami avec Einstein et c'était un juif aussi des pays de Ashkenaz.
Je vais donner plusieurs rendez-vous aux auditeurs.
Oui.
Qu'ils soient sur
et
YouTube.
Alors juste, je te dis, en fait, le concert de poche, pourquoi?
Elle est incroyable, Chirel. T'es tellement passionnée. C'est toi qui m'as dit, libère-moi vite, je vais chercher des enfants.
Oui, je sais, mais je
voulais
juste te dire que...
Alors, je suis en train de dire, bon, faut qu'elle aille chercher... Il n'y a que sur une radio juive qu'on voit ça. Faut qu'elle aille chercher les gosses. Et non, mais non, attends, on va parler encore d'Olivia Newton-John. Vas-y, Chirel, bien sûr.
Pourquoi j'ai appelé ça... Enfin, on m'a donné une très belle idée d'appeler ça... Concert de poche, parce qu'en fait, je raconte le livre et je chante les chansons du livre, puisque je suis chanteuse, alors autant les chanter. Donc, ça fait une conférence chantée. En même temps, je raconte mon aliya. Et en fait, voilà, c'est l'amour du peuple juif en chanson.
Alors, les dates sont les suivantes. Donc,
oui.
On a tout ça organisé par... Alors, ils ont un titre bien précis qu'ils aiment bien donner, qui est le département promotion de la aliya de l'OSM, l'Organisation Sioniste Mondiale. Paris, le 4 décembre, à l'Écluse. Strasbourg, le 6 décembre. Lyon, le 7 décembre, je lis là. Marseille,
ouais.
Le 8. Donc là, on a tout ça, on trouve évidemment sur le site internet de l'OSM. On trouve aussi sur leur page Facebook. Et je voudrais aussi vraiment insister sur ce grand livre de 400 pages, Jews and Music, par Shirel. Parce que, comme on est à quelques jours des fêtes de Hanouka, je pense que c'est une très bonne idée de cadeau. Donc, Jews and Music.
Ça se trouve sur jewsandmusic.com. Tu vois, c'est simple.
Allez. Donc, on a aussi l'adresse pour ça. Super. Shirel, qui est en direct de Tel Aviv avec nous. Et ce qui est un très beau concept qui s'appelle concert de poche. En fait, donc, c'est des petits showcases comme ça. C'est très intimiste, c'est super sympa pour chanter tous les titres et les artistes que l'on vient d'évoquer. Shirel, je te remercie. Tada,
merci, Bernard. Salut, à bientôt.
Et à très bientôt.